Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 27 avril, alors que la pression hospitalière reste forte dans le département du Rhône. Sur les 8 millions d'habitants de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, 20%, un peu plus, ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 1 650 000 personnes. La mairie de Lyon s'apprête à dévoiler les modalités de réouverture des terrasses lyonnaises. Des trolleybus électriques nouvelle génération, mis en service à Lyon. Polémique autour des ponts. Le pont de Couzon restera fermé le temps des travaux après le passage d'un camion béton de 32 tonnes. Quant au pont de Vernaison, il est promis à être en sens unique à partir du 1er juin. Décision de la métropole de Lyon. Retour sur ces deux dossiers dans cette édition. Le MAS, le mouvement d'action sociale, cette discrète association a fait parler d'elle récemment en ouvrant 17 tiny houses à Villeurbanne. Mais le MAS a bien d'autres missions. Explication dans cette édition avec Pierre Mercier.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des rassemblements ont été organisés hier soir devant plusieurs commissariats du Rhône à l'appel d'organisations syndicales devant l'hôtel de police de la rue Marius-Berlier à Lyon 8e ou encore devant le commissariat de Vau-en-Velin. Les policiers entendaient rendre hommage à leur collègue Stéphanie assassinée vendredi à l'entrée du commissariat de Rambouillet. Elle est la 12e représentante des forces de l'ordre à perdre la vie depuis 2015 dans une attaque terroriste. La pression hospitalière reste forte dans le Rhône. 1080 patients Covid plus sont hospitalisés, 7 de plus en 24 heures. 272 sont en réanimation. Ces dernières 24 heures, 78 nouveaux patients ont été enregistrés, dont 21 en réanimation. Ils étaient 100 au total, dont 34 en réanimation il y a une semaine. Après 16 nouveaux décès, le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars 2020 s'élève à 2935 pour le seul département du Rhône. Le variant anglais est désormais responsable de près de 9 contaminations sur 10 dans le département. La souche historique est descendue sous les 2%. Les variants brésiliens et sud-africains restent également en dessous des 2%. Le taux d'incidence de la métropole de Lyon est descendu sous la barre des 400. Dans le département du Rhône, on est à 371 pour 100 000. Mais cette période est marquée par un effondrement des dépistages avec 58 500 tests réalisés contre près de 125 000 au cours de la semaine de Pâques. Notons que sur les 8 millions d'habitants de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, 20,6% ont reçu au moins une dose de vaccin, c'est-à-dire 1 650 000 personnes. 631 000 personnes ont reçu les deux doses de vaccin dans la région, soit 8% des habitants. Et puis dans le Rhône, 357 000 personnes ont reçu au moins une dose, 133 000 ont reçu les deux. Les hospitalisations continuent d'augmenter en France. Actuellement, 30 596 personnes sont hospitalisées dans le pays en raison du Covid. C'est 309 de plus que dimanche. Et puis surtout, 6001 patients sont à ce jour hospitalisés en réanimation contre 5 978 dimanche. La barre symbolique des 6000 patients jamais atteinte depuis le 16 avril 2020 vient donc d'être franchie.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
La mairie de Lyon va dévoiler jeudi les modalités de réouverture des terrasses lyonnaises. Le plan sera dévoilé dans un lieu symbolique au grand réfectoire de l'Hôtel Dieu. Grégory Doucet sera accompagné pour cela par trois adjoints. Camille Auger, qui est en charge de l'emploi et de l'économie durable. Valentin Langenstrass, qui est en charge de l'espace public. Et Mohamed Chi, en charge de la tranquillité publique. Thierry Fontaine, le nouveau président départemental de l'UMIH, le premier syndicat patronal du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèque, participera aussi à cette présentation. Emmanuel Macron souhaite, il faut le rappeler, que l'on puisse tenir l'objectif de la mi-mai pour la réouverture des terrasses. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé. Des trolleybus électriques nouvelle génération ont été mis en service à Lyon. Ils sont 100% électriques, silencieux et se rechargent même en roulant. Les explications avec vous, Léo Ballery.
Le Citral poursuit sa transition écologique et énergétique avec la mise en place de trolleybus nouvelle génération, ayant la particularité d'être 100% électrique. La première ligne à en bénéficier est la C13, reliant Grange-Blanche à Caluire. La flotte effectuant ce trajet devrait être totalement remplacée d'ici la fin juin. Ces nouveaux bus sont reliés aux lignes électrifiées, mais ils peuvent également se déplacer sans. Un véritable bus du futur pour Bruno Bernard, président de la métropole et du Citral.
La première nouveauté, c'est que ça nous permet de rouler avec des bus électriques sur batterie. Donc ils peuvent se dépercher et quand il y a des travaux importants notamment, le bus peut continuer à rouler. Et là, le C13, du coup, va faire le parcours complet sans arrêt à l'hôtel de ville puisqu'il s'arrêtait depuis plusieurs mois à l'hôtel de ville. Deuxième particularité, c'est qu'on a 30% de plus de place pour les voyageurs. Et puis, c'est globalement un bus plus confortable pour les chauffeurs, pour les habitants qui l'utilisent. Il y a moins de bruit, on peut aussi recharger son téléphone avec les ports USB. Il y a plus de place pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes. Donc, c'est un bus du futur qui améliore la qualité de confort des usagers.
Edwige Basparsi, directrice des équipements et du patrimoine au Citral, explique l'aspect innovant de cette nouvelle génération de trolleybus.
Alors donc ce sont des trolleybus donc, qui prennent leur énergie électrique sur la ligne aérienne, mais ils sont innovants dans le sens où ils ont une batterie embarquée qui permet de faire à peu près 40% du trajet sans ligne aérienne. Donc en fait, le côté innovant aussi, c'est qu'ils se rechargent en roulant. Donc quand ils sont sur la ligne aérienne, ils reçoivent le 750 volts en roulant, qui recharge à la fois la batterie et permet de faire la traction du véhicule. Et ensuite, quand ils déperchent et qu'ils donc, sont plus sous ligne aérienne, ils fonctionnent uniquement sur la batterie. Donc ce sont à la fois des bus électriques à batterie, mais aussi des trolleybus. Et ça nous permet de ne pas rajouter d'infrastructures en fait, de charge et de les recharger la nuit. En fait. Ils se rechargent en roulant.
Au cours du mandat, le Citral a l'intention de changer près de 400 bus pour soit des trolleybus 100% électriques, soit pour des bus fonctionnant au gaz naturel. Selon Bruno Bernard, l'objectif du Citral est d'à terme diminuer de 60 à 70% les émissions de gaz des différents polluants.
Merci Léo. Les maires de Solèze et Vernaison ont, semble-t-il, voulu inciter les usagers à s'opposer aux mesures de sécurité que la métropole s'apprête à mettre en place. Au 1er juin, la circulation sur le pont de Vernaison s'effectuera en effet en sens unique. Cette mesure doit permettre de maintenir une ouverture partielle de ce pont vieillissant et donc potentiellement dangereux. La métropole de Lyon est responsable de 735 ponts, passerelles ou trémies. Parmi eux, 186 font l'objet d'une surveillance renforcée. Pour Jean-Charles Collas, vice-président délégué au déplacement, il serait irresponsable et inacceptable que certains maires incitent les habitants à s'opposer à une mesure qui vise à éviter tout drame dans la métropole. Le pont de Vernaison a été construit en 1957. Ce pont suspendu fait l'objet d'un dispositif de surveillance 24 heures sur 24 depuis 2 ans. Il est interdit aux poids lourds depuis l'année dernière. Il y a quelques jours, un camion transportant du béton et pesant 32 tonnes a emprunté un autre pont, celui de Couzon, alors que l'ouvrage est interdit là aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Sérieusement endommagé, le pont de Couzon restera fermé à la circulation automobile jusqu'aux réparations. La métropole n'est pas en mesure de donner un délai pour leur réalisation. Le mât comme mouvement d'action sociale. Cette discrète association a fait parler d'elle récemment en ouvrant avec la métropole 17 tiny houses à Villeurbanne pour accueillir des femmes isolées avec enfants à la recherche d'un toit. Mais le mât a bien d'autres missions. Nous avons rencontré Pierre Mercier, le directeur de la structure.
Le mât, c'est une association qui a été créée en 61 par des gens de justice et notamment un juge d'application des peines pour venir en aide au départ aux personnes sortant de détention. Et puis progressivement, l'association s'est développée toujours en suivant un fil autour de la justice et de la loi pour travailler avec ceux qui sont en situation de vulnérabilité, ceux qui rencontrent des difficultés X ou Y, dans une voie d'aide, mais également d'exigence par rapport au public pour qu'ils prennent place positivement et de manière responsable dans la société, si c'est possible pour tous.
Qui vous recevez et qui vous défendez, entre guillemets ?
Alors actuellement, on aide plus de 10 000 personnes, dont 1 000 enfants, qui se répartissent dans 4 grandes catégories. Des personnes victimes d'infractions pénales, beaucoup, hein, nous aidons 4 à 5 000 personnes par an, et travaillons beaucoup avec les brigades de police, gendarmerie, le parquet, enfin la justice. Nous travaillons ensuite avec des personnes vulnérables et précaires. Depuis ces dernières années, nous recevons dans ce public des gens en situation de droit incomplet sur le territoire, voilà, et notamment des femmes, des jeunes enfants. Nous accueillons ensuite des personnes en situation de handicap dans une entreprise qui leur permet d'avoir un travail et une insertion, et puis des personnes usagères de drogue.
Alors vous êtes quoi ? Vous êtes conseiller dans ces dossiers ou vous intervenez concrètement dans les démarches ?
Le MAS intervient toujours auprès des publics avec les pouvoirs publics. Hein, c'est vraiment notre ligne. par rapport aux gens que nous accueillons, nous leur proposons des réponses adaptées aux besoins qu'on évalue avec eux. Donc nous avons des équipes de travail social, de juristes, de soignants qui peuvent aider dans le cheminement des personnes, apporter parfois des aides matérielles, mais apporter également un accompagnement, une aide pour permettre de l'accès aux droits, pour permettre de l'accès à l'autonomie, pour aider à fabriquer des adultes qui prennent place après dans la société de manière responsable. Encore une fois, je le dis, je pense qu'on ne doit pas être dans une logique d'assistanat. Je pense que c'est important, la société aide des publics à eux de pouvoir après prendre place dans le monde et de participer à la fabrique des villes et des territoires.
Donnez-nous un exemple concret de ce que vous faites.
On peut parler des gens accueillis ici, des femmes donc avec de très jeunes enfants. Donc il y a une équipe sociale qui va travailler sur le site. Donc il faut qu'on assure toutes les questions matérielles, hein, puisque ici il y a aussi des gens qui n'ont pas de revenus. Donc on va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur le matériel, on va sur les logistiques, enfin essayer d'approvisionner pour que les personnes est voilà des ce dont elles ont besoin. On va travailler sur l'école et la scolarisation avec les enfants. On va travailler sur la relation entre les mères et leurs enfants aussi, pour parce que parfois pour elles et pour les enfants, c'est toujours compliqué d'être parent, hein, enfin voilà, et pour les enfants. On va travailler sur la vie collective en apportant là c'est pas des activités. On va travailler sur du jardinage, de la culture, peut-être de l'apprentissage culturel, du faire ensemble. On va travailler sur des à fabriquer une espèce de communauté d'entraide où les femmes pourront aussi s'entraider. Et puis individuellement, on va aussi travailler sur vraiment sur leur accès aux droits, droits sociaux, l'accès au volet médical, parce que certaines ont besoin, là. Tout ça, ça va durer 12, 18 mois. Dès lors que ces personnes auront des situations leur permettant une meilleure autonomie, on va leur trouver avec nos partenaires un logement, une insertion, de l'activité, leur permettant de cheminer.
L'objectif, c'est pas d'assister les gens, c'est avant tout de les intégrer. Hein.
Non, je pense que vraiment, tout ce qu'on fait dans le MAS depuis 60 ans, c'est de favoriser l'insertion, l'intégration des personnes adultes dans la société, quels qu'ils soient. Alors, ils ont besoin d'aide pour se remettre en situation, et là, on apporte. Et puis, ils ont besoin d'accompagnement pour les guider individuellement, chacun, qu'on les guide dans leur chemin, et puis qu'on travaille sur leur accès à l'activité, aux droits sociaux, au logement, à la santé, à la culture, aux apprentissages. Enfin voilà, la question de l'apprentissage, elle est au cœur de tout ce qui doit se faire aujourd'hui avec les plus vulnérables. Ce sont des publics qui maîtrisent mal parfois les codes et l'accès au monde inséré. Et donc là, il faut vraiment qu'on renforce ça, notamment par exemple ici pour les enfants. Ils doivent tous être scolarisés, tous apprendre à parler français très bien. Les mères aussi, elles doivent identifier la manière dont la société française fonctionne, le rôle des autorités, des institutions, à quoi elles ont droit et qu'est-ce qu'elles doivent aussi en tant qu'habitants de ce pays.
Qu'est-ce qui manque en France, ici dans la métropole, dans cette ascension sociale? C'est la première marche justement, c'est celle-ci
Je pense qu'il manque effectivement un certain nombre de réponses en matière d'hébergement et d'insertion de premier niveau. Il y a quand même beaucoup de situations qui sont sans domicile, à l'hôtel, dans des centres d'hébergement un petit peu bricolés. Je pense qu'il manque après la fabrique d'une utilité des gens. Je pense que ce qui est difficile dans les publics qu'on rencontre, c'est qu'ils ont intégré une représentation et une image d'une certaine inutilité au monde. Et il faut vraiment qu'on refabrique et qu'on crée les conditions d'une utilité de ces personnes à eux-mêmes et aux autres. Ça veut dire s'occuper de soi, ça veut dire s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses proches, s'occuper de ses voisins, s'en occuper, avoir le souci de participer activement à la fabrique d'une société. Et là, on va travailler avec des voisins, avec des étudiants, avec des citoyens aussi qui vont venir nous rejoindre sur le site. Parce que les gens ne doivent pas être laissés dans de l'inutilité. Moi, c'est ça, vraiment le truc qui est important. S'ils sont inutiles, ça fabrique de l'inutilité pour quelques générations et c'est du gaspillage.
Pierre Mercier, le directeur du MA, pour tout renseignement, ma-asso.fr. Un secteur qui attend également la réouverture, le secteur de la culture bien sûr. Camélia Jordana sur la scène du Hopsound Festival les 28 et 29 août à Fleurieux sur l'Arbrelle pour soutenir les victimes de violences intrafamiliales. Le Hopsound Festival est le premier festival caritatif en France à défendre les droits des victimes de sévices psychiques, psychologiques et sexuels. Les bénéfices serviront à mettre en sécurité des femmes, des hommes et des enfants violentés. L'objectif est aussi de réaliser des missions de sensibilisation dans les collèges, écoles, lycées, écoles post-bac ou entreprises. Le festival en plein air se déroulera donc en deux temps. La journée sera consacrée à l'information et à la sensibilisation contre les violences intrafamiliales par le biais de conférences, d'ateliers ou de spectacles. Les clôtures des journées se feront en musique avec des concerts pop, rock et électro en présence d'artistes d'envergure nationale comme Camélia Jordana, donc Mademoiselle K, Caval, Bandi, Martin Luminet, Terre-Neuve ou encore Melba. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.